Est-ce que ça marche ? Ça semble marcher. Bonsoir à tous et bienvenue à ce débat sur le transrun. Ah non, excusez-moi. Désolé, on m'a... Petite erreur. Alors, les fonds de pension battent en retraite. Vous aurez tous compris, j'imagine, le jeu de mots. Titre accrocheur pour ce qui s'annonce plutôt, je dirais, comme une discussion. Écoutez, je voulais simplement demander à chacun des intervenants déjà de se présenter, de faire un premier tour de table pour savoir à qui on a affaire. Ben, peut-être à ma droite.
Oui. Alors, Olivier Sanchez, je suis le directeur de Prévoyance Neuchâtel, donc la caisse de pension de la fonction publique du canton de Neuchâtel.
Alain Chatte, je suis professeur de comptabilité financière ici à l'Université de Neuchâtel et donc en charge de l'Institut d'analyse financière.
Ici Werner Herzog, je suis le directeur de Aon Hewitt ici à Neuchâtel et avant j'étais le directeur de la Caisse de pension fédérale 7 ans.
Merci, Robbie Chop. Je suis présent au titre d'ancien président de la caisse de pension Nest à Zurich, qui est une caisse ouverte qui compte à peu près 15 000 assurés. Et accessoirement, je suis vice-président de l'association des représentants du personnel dans les institutions de prévoyance.
Donc on le voit, on a des acteurs autour de la table, des experts, il y a du recul, de l'expérience, ça devrait bien se passer. Je ne vais pas relire la donnée, mais disons, essayer de parler un petit peu de son esprit, en tout cas de celui que j'ai cru y voir. C'est finalement de partir de l'exemple neuchâtelois, prévoyance.ne, qui vous concerne peut-être directement, hein, pour mieux peut-être comprendre le contexte global et mieux cerner le défi que va devoir relever, disons, la société suisse pour assurer les vieux jours de ces générations actuelles et futures. Donc il s'agit, vous l'avez bien compris, pas ici de faire ou de refaire le débat politique ou éventuellement le procès des autorités, des acteurs, des experts neuchâtelois. Vous connaissez à peu près tous les grandes lignes de l'histoire. Mais plutôt de voir en quoi cet exemple s'inscrit dans un tout qui connaît peut-être un changement majeur de paradigme. S'il me fallait résumer le thème et si on doit peut-être se poser une question... Et pour pied, en fait, les termes de Werner Herzog dans un mail qu'il m'a écrit, peut-on faire autrement que de ne pas tenir les promesses du deuxième pilier sans risquer un conflit de génération? Ça, c'est en tout cas déjà une question qu'on pourra peut-être se poser ce soir. Alors, quelques données concernant prévoyance.ne. Taux de couverture moyen en Suisse, j'ai lu que c'était 95%, je ne suis pas un spécialiste. C'est un chiffre que j'ai repris d'ailleurs de la donnée hein, qui nous a été soumise. Caisse de pension de la fonction publique neuchâteloise, 55% de couverture à fin 2011, 25 000 assurés, 17 000 actifs et 7 300 pensionnés, un découvert de 2,1 milliards à fin 2011, avec des engagements de 4,8 milliards et une fortune de 2,7 milliards. Puis une année 2011 avec un bilan de placement négatif, moins 107 millions de francs. Et puis vous savez tous que vendredi, il y aura les résultats des négociations du bras de fer entre les employés et les employeurs pour tenter d'assainir prévoyance.ne. Alors je me tourne vers M. Sanchi, donc directeur de la toute jeune prévoyance.ne. Alors, ça fait 2 ans et demi, hein, je vous posais 2 questions. Est-ce qu'il faut s'alarmer déjà de ces chiffres? Et puis surtout, puisque tout le monde connaît et commet des erreurs de jeunesse, peut-être, qu'est-ce que vous avez appris?
Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, les chiffres que vous avez annoncés sont parfaitement justes. Je dirais, juste à une nuance près, c'est que vous avez pris le chiffre des caisses de pension suisses à 95%. Alors, c'est clair que c'est effectivement un chiffre qui me semble correct. Je n'ai pas le chiffre en tête. Mais par contre, il y a une grande distinction qu'il faut faire, c'est les caisses de pension publiques et les caisses de pension privées. Donc là, déjà en préambule, je pense que c'est important de faire la distinction de ces deux types de caisses de pension. Les caisses de pension publiques depuis 1985, donc depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la prévoyance professionnelle, la LPP, sont autorisées à être en sous-couverture. Alors, sont peut-être pas autorisées à être aussi, je dirais, bas dans le degré de couverture comme l'est notre caisse de pension. Et ça, le Parlement fédéral a un peu corrigé en décembre 2010 cet élément-là, en visant en 40 ans un taux de couverture de 80%. Donc là, c'est vrai que ces caisses de pension publique, eh bien, certaines ont, entre guillemets, profité du système, et puis d'autres, plutôt de l'autre côté de la Sarine, ont été des meilleurs élèves, et pour la plupart, sont à des niveaux proches de 100%. Bon, il y a quand même quelques caisses de pension, il y a la caisse de pension de Soleure notamment, hein, qui a aussi un taux de couverture aux environs de 70%. Il y a quand même quelques caisses de pension qui sont publiques, qui sont en sous-couverture. Bien sûr, il y a aussi des très bons exemples, c'est notamment la caisse de pension d'Appenzell-Rhône Intérieur, hein, qui était à 116% il y a 2 ans. Alors voilà, ça fait envie, c'est vrai. C'est des caisses de pension qui n'ont pas les mêmes problèmes que les nôtres, et surtout pas cette semaine, parce que cette semaine, je fais la tournée des employeurs, des assurés, séance de conseil d'administration, conférence de presse. Enfin bref, c'est une semaine assez chargée pour notre caisse de pension à expliquer toutes ces mesures et toute l'issue de ces négociations. Maintenant, est-ce que ces chiffres font peur ? Alors, c'est clair qu'à l'échelle d'un assuré, quand on lui dit qu'il y a 2,2 milliards de découverts, ça peut effectivement, je pense.
Je disais 2,1, c'est monté à 2,2.
Non, c'est pas monté à 2,2. C'est des chiffres, c'est vrai, qui sont globaux, mais c'est vrai que les assurés, conçoivent que c'est une situation qui est extrêmement difficile. Maintenant, si on ramène ça aux objectifs fédéraux, on réduit ça quand même de 1 milliard. Hein, donc l'objectif à 40 ans, c'est de recapitaliser de 1,1 milliard. Donc là, ça commence à devenir un peu plus abordable si on répartit ça dans le temps. Mais ça va quand même être un défi assez important dans le sens où ce sont les 20 prochaines années qui vont compter, parce qu'on doit atteindre au 1er janvier 2030 un taux de 75%. Donc c'est surtout ces 20 prochaines années qui vont être difficiles.
Alors, vous avez entendu le directeur d'une caisse de pension publique. Est-ce qu'autour de la table, peut-être que ça soulève des réactions ? Est-ce que vous le prenez en pitié ?
Je vais peut-être me permettre d'intervenir. C'est vrai que les chiffres énoncés sont effrayants, mais ils ne sont pas non plus à payer demain. La doctrine des caisses de pension a changé il y a 5 ans. M. Sanchez a évoqué une modification de la loi fédérale, c'est le cas. Donc longtemps, on a dit de toute façon, l'État, tôt ou tard, paye les retraites. S'il ne paye pas les cotisations à temps, il paiera les retraites plus tard. Et on s'est installé un petit peu dans ce confort. Dans ce confort, entre guillemets, on a vraiment eu une... Il faut rappeler que la loi sur la LPP en 1983, quand elle a été faite pour entrer en vigueur en 1985, a repris, en fait, les caisses de pension. Elles existaient déjà. Beaucoup d'entreprises avaient des caisses de pension. Donc le législateur s'est trouvé devant le casse-tête de conserver un système qui existait déjà sur une base volontaire, mais en le rendant obligatoire. Donc à peu près toutes les solutions qui existaient, on a fait en sorte qu'elle puisse se poursuivre en s'harmonisant plus ou moins bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est facile de jeter la pierre aux responsables politiques de l'époque ou aux gérants des caisses de pension. En plus, prévoyance.ne est née en sous-couverture, donc la situation était celle-ci. Les caisses privées, puis en particulier les caisses ouvertes, comme celles que j'ai eu l'honneur et la charge de présider, évidemment, sont dans une situation tout à fait différente, parce que les sociétés, les entreprises qui s'affilient chez nous peuvent démissionner, peut-être pas tout à fait d'une année à l'autre, mais presque. Donc on est tenu de chaque année prouver à nos affiliés qu'ils ont raison de nous faire confiance. Et au-delà de ce qu'on peut exiger de nous au niveau de la surveillance des caisses, évidemment, on doit prendre rapidement des mesures s'il y a le moindre doute sur la solvabilité à long terme. Donc on compare vraiment ici deux mondes qui sont complètement différents. Et puis je dirais, pour peut-être réélargir le débat de la manière dont il est posé, malgré 10 ans de crise grave, de mon point de vue, le système des caisses de pension en Suisse, il est encore très solide. Même si il faut se poser les questions pour le faire le pérenniser, et les cas particuliers, même s'ils sont localement, comme dans le canton de Neuchâtel, préoccupants au niveau du canton, doivent pas jeter l'ombre sur tout le système du deuxième pilier en Suisse, à mon avis.
Alors, donc finalement, si je comprends bien, il y a peut-être un changement de peut-être aussi d'état d'esprit par la force des choses au sein des caisses public, est-ce que peut-être ça, Alain Chatte, vous le constatez aussi, avec votre recul?
Oui, je pense qu'il y a deux problèmes totalement différents sur ces pensions. Il y a un premier problème qui est un problème d'ordre macroéconomique. Ça veut dire qu'on a un allègement de l'espérance de vie des personnes, donc les gens vivent plus vieux, il faut payer plus longtemps. Il y a des taux de chômage dans certains pays, puisque ce n'est pas un problème spécifique à la Suisse, hein, le problème de la retraite, il ne faut pas l'oublier. En Europe, c'est bien plus grave, comme le disait monsieur tout à l'heure, en Europe, c'est bien plus grave qu'en Suisse, hein, faut bien avoir conscience des réalités. Il y a du chômage, donc les gens ne cotisent pas, etc., etc. Donc on a des problèmes à la fois structurels et conjoncturels, des marchés boursiers qui sont déprimés depuis plus de 10 ans, ça a été dit, depuis la bulle Internet, si vous vous rappelez, aujourd'hui, les indices boursiers sont deux fois plus bas qu'il y a 10 ans, bon, on a bulle Internet, donc on a des marchés qui sont quand même très difficiles aujourd'hui, des taux d'intérêt très bas. Donc un certain nombre de facteurs macroéconomiques qu'on a du mal à gérer, qui ne sont pas sous l'emprise des gérants de fonds aujourd'hui. Et donc il faut vivre avec, et il faut vivre aussi longtemps que ça durera. Puis il y a un deuxième problème, qui est un problème d'ordre plutôt microéconomique au niveau des fonds, c'est-à-dire comment sont gérés les fonds. Ça rejoint les problèmes de gouvernance, de conflit d'intérêts. Qui doit décider de comment allouer l'argent qu'on a collecté auprès des futurs retraités, qu'est-ce qu'on doit faire de cet argent? Est-ce qu'il faut l'investir dans l'immobilier? Est-ce qu'il faut l'investir dans des actions? Est-ce qu'il faut l'investir sur du monétaire, etc., etc.? Qui doit prendre des décisions? Dans certains, je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre, et je ne parlerai pas de public, mais de privé ici, puisque les problèmes sont les mêmes. Dans une grande entreprise suisse, un exemple que je donne à mes étudiants, dans une grande entreprise suisse, le montant des pensions cumulées, c'est à peu près 1 milliard de francs suisses. 300 millions sont investis dans l'entreprise, ce qui est scandaleux. Pourquoi est-ce que c'est scandaleux? Parce que si cette entreprise venait à faire faillite, non seulement les employés vont perdre leur emploi, mais en plus ils vont perdre 300 millions uniquement leur future retraite. Donc vous voyez les problèmes qu'on a sur le public, qui sont évoqués un petit peu, puisqu'on est sur Neuchâtel, c'est normal, je veux dire, on les retrouve dans d'autres entreprises, et ça rejoint ce qu'on appelle nous des problèmes de conflit d'intérêts, de gouvernance, comment doivent être gérés tous ces fonds, et pour moi c'est un problème clé qui est insuffisamment évoqué aujourd'hui par tous les responsables au niveau international, pas uniquement au niveau suisse.
Alors on reviendra peut-être tout à l'heure sur les problèmes de gouvernance. Vous l'avez dit, les taux d'intérêt sont bas, et puis le monde et l'Europe en particulier paraissent plus instables que jamais. Alors comment naviguer dans ces eaux-là quand on gère une caisse de pension? Je ne sais pas qui veut répondre. Peut-être Werner Herzog.
Peut-être je peux donner une réponse là-dessus après. D'abord, il faut comprendre à qui appartient cette caisse de pension qu'on a. C'est le propriétaire, c'est l'assuré, le rentier. Mais dans le passé, ce n'était pas toujours comme ça, et c'était dans le plan public. C'est toujours la politique qui a dit c'est notre caisse de pension, et c'est nous, on fait ce qu'on veut avec ça. Et c'est une partie du problème pour les caisses publiques. Alors, c'est clair, d'après la loi, une caisse de pension est autonome. Hein. Mais il y a le même problème aussi dans les caisses privées, comme l'exemple qui a été mentionné. Et c'est à cause de ça, l'autonomie d'une caisse de pension, la governance, ça c'est primordial, hein. C'est vraiment essentiel. Et si on a compris qu'une caisse de pension, c'est une entreprise qu'il faut aussi gérer, et d'après les normes et les règles, et après, il y a une amélioration assez vite. Et on n'assainit pas une caisse de pension avec de l'argent, on assainit avec des gens qui sont compétents, qui savent gérer l'affaire. Et il faut aussi les payer d'une façon correcte, par exemple. On ne peut pas économiser là, il faut avoir des spécialistes, alors on les paye aussi correctement. Alors il faut avoir un team qui est performant et qui sait ce qu'il doit faire. Et après, l'employeur et les assurés ou l'État, ils sont sûrs que l'argent qu'on doit injecter est géré d'une façon correcte. Et c'est un petit peu, c'est le cas avec Publica, par exemple, je peux mentionner. J'ai toujours fait beaucoup attention qui j'engage. Et il faut avoir des gens qui ont des valeurs. Et c'est très, très important s'il y a des caisses qui sont... Oui, vous connaissez, par exemple, la caisse cantonale de Zurich. C'est un scandale et ça, on ne peut pas se permettre. Et ça, c'est un problème parce que 99% des gens travaillent correctement. Il y a quelques cas qui sont scandaleux. Après, ça infecte toute la réputation d'une branche, de toutes les caisses de pension. Et ça, on devrait strictement arrêter avec ce genre de choses. Et si les règles sont claires, l'autonomie est aussi claire avec une caisse de pension, après on peut commencer d'assainir les choses. On a assez de problèmes à résoudre techniques avec l'espérance de vie, etc. Mais d'après moi, la clé, c'est la governance.
Alors vous parlez de compétences, mais la compétence a un prix. On peut imaginer, est-ce que toutes les caisses de pension peuvent régater, peut-être ?
Moi, je pense que oui. Et puis, je peux donner l'exemple de notre caisse de pension. De quelle manière, et ça, on l'a fait lors des séances d'information qu'on a données au sujet de l'assainissement. On a fait 11 séances d'information entre la fin de l'année passée et le début de cette année pour expliquer un peu la situation. Donc, on a invité tous nos assurés à venir à ces séances d'information. Et lors de ces séances, alors on leur indiquait de quelle manière, là, on rejoint aussi ces éléments de gouvernance, de quelle manière était géré leur argent. On leur a indiqué le fonctionnement de la caisse. Donc, il y a un conseil d'administration de 30 personnes paritaires, donc représentant la moitié les assurés et l'autre moitié les employeurs. Et puis, de ce conseil d'administration est issue une commission de placement qui actuellement comporte 10 membres. Et ces 10 membres, c'est 10 membres qui s'engagent, qui ont des compétences. On a des juristes, des économistes, des gens qui ont vraiment aussi de l'expérience. Et puis, est fait au niveau de la commission de placement les décisions d'octroyer des mandats à certaines banques, etc., pour gérer notamment les valeurs mobilières. Les valeurs immobilières, donc tout ce qui concerne les immeubles sont gérés plus en interne. Donc on a plusieurs gérants qui s'occupent de la gestion au quotidien, mais un parc immobilier, ça se gère pas simplement par des baux et puis des contacts avec des locataires. C'est aussi une gestion financière, c'est une évaluation des immeubles, c'est un suivi des plans de rénovation, et tout ça est mis en place dans notre caisse. On l'a mis en place ces 2-3 dernières années pour pouvoir gérer ça. Maintenant, toutes les valeurs plus volatiles, donc les actions, tout ça, c'est géré en direct dans des banques, principalement des banques. C'est des mandats qui sont confiés parce qu'on n'a pas la prétention de savoir en interne s'il faut acheter une Swatch ou bien vendre une autre action.
Et là, il y a une forme d'impuissance. Il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là.
Disons que le contrôle, alors il y a plusieurs contrôles qui sont faits. Donc là, on a une équipe en interne qui procède au contrôle. On a toutes sortes de benchmarks. Donc ça, c'est la grande mode dans les caisses de pension. On se compare non seulement aux autres caisses de pension, comme vous l'avez fait au tout début de ce café, et on se compare aussi. On a ce qu'on appelle des indices qui sont par classe d'actifs, donc des indices en actions, etc. Et puis on donne des objectifs, un mandat clair à nos mandataires, et on contrôle bien sûr que les choses sont faites correctement. Peut-être juste pour information, pour dire aussi de la manière dont est gérée au quotidien la caisse. On connaît jour après jour nos valeurs, la valeur de notre fortune. On pourrait calculer le degré de couverture tous les jours si on le souhaitait. Ça n'a absolument pas de sens, mais on a, grâce à l'internet, aux outils, à la banque dépositaire, donc on a, les titres sont déposés tous au Crédit Suisse, puisque c'est indiqué dans notre rapport de gestion. Tous les jours, on a accès en direct à la valeur de nos titres. Donc les contrôles, je peux vous dire qu'il y en a un certain nombre qui se font, et puis ça se fait journalièrement.
Est-ce qu'à ce stade, il y a déjà des questions qui se font jour, soit sur prévoyance.ne ou bien alors des questions plus générales?
Parce que votre allusion était pour moi complètement obscure.
Oui, c'est une longue histoire. C'est le chef de placement d'argent qui est devant le juge et il va probablement aller en prison assez longtemps. Et c'est une situation qui a duré 10 ans. Il a fait des choses qui n'étaient pas permises. Hein. Alors, vous savez, l'énergie criminelle, c'est, vous n'avez jamais vraiment sous contrôle. Alors, mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est aussi, je peux vous dire, dans la branche, c'était plus ou moins connu hein, depuis 10 ans. Vous savez, il y a eu des rumeurs, etc. Mais c'est extrêmement difficile de prouver ce genre de choses. Et la deuxième chose, c'est qu'il l'a fait d'une façon très, très rusée. Alors, je dis rien de confidentiel parce que ça, on peut lire dans tous les rapports, c'est publié, etc. Alors, et il a impliqué les gens qui étaient aussi dans le rôle de décider des choses. Et finalement, vous êtes prise dans un filet. Et vous ne pouvez plus vous sauver. Et probablement, c'était simplement, on a fini cette histoire parce qu'il y a eu un nouveau directeur et un nouveau conseiller d'État en même temps. Et après, ils ont décidé qu'on veut stopper ça. Et maintenant, c'est fini. Après, on règle ça. Et il ne faut pas oublier, le canton de Zurich, c'est la deuxième caisse en Suisse dans la grandeur. Et c'est... Je dis Zurich, c'est le canton des radicaux. Hein? C'est vraiment le Wirtschaftsstandort hein, en Suisse. Et ils devraient donner le bon exemple, comme la Caisse fédérale aussi doit donner le bon exemple. Et c'est inouï ce cas-là. Mais le positif de l'affaire, c'est que ça nous montre comment on ne doit pas le faire et on peut le corriger. Et le nouveau directeur, je le connais aussi, c'est un bon type, il fait un bon travail, mais il a du boulot, hein. C'est 10 ans de travail de réparer une réputation. Alors une réputation, on peut casser en 2-3 semaines, hein. Mais pour la réparer, ça dure à peu près 10 ans hein, là-dedans. Il y a dans les journaux, vous pouvez aussi utiliser l'Internet, vous trouvez tout de suite plus d'informations là-dessus, hein. Et il faut arrêter avec ces histoires, c'est clair.
Alors, on parlait de compétences et de contrôle. Je crois que Robichop, vous vouliez enchaîner.
Oui, en fait, je voulais rebondir sur votre question de départ. M. Herzog vient de donner le contre-exemple, en fait. Mais moi, je pense qu'effectivement, toutes les caisses de pension suisses qu'on a aujourd'hui ne sont pas viables ou peuvent représenter des risques. Alors, on vient d'entendre que la taille d'une caisse ne protège pas contre tous les problèmes. Mais... vous avez encore en Suisse passablement de caisses de pension d'origine historique, donc d'avant 85, pour des sociétés de 120 employés. Alors là, c'est clair qu'on peut avoir la chance qu'elles soient bien gérées, avec des personnes d'un bon sens qui leur permettent de s'en sortir, mais on peut aussi avoir très facilement un risque sur des petites caisses comme ça. Et depuis plusieurs années, on a un processus de concentration qui est en cours. Et personnellement, je pense que c'est plutôt une bonne chose, même si d'un autre côté, on aime bien laisser de l'espace pour des fois des nouvelles idées ou des façons de faire un peu différentes. Mais enfin, la LPP n'est pas forcément l'endroit pour faire des start-up, puisque c'est quand même les retraites des gens qui sont en jeu. Donc il y a toujours balancé entre deux pôles, d'avoir assez de biodiversité pour pas s'enfermer dans des schémas qui sont mauvais à terme, mais avoir une taille critique pour permettre une professionnalisation de la caisse. Donc, moi, je crois que c'était le sens de votre question, et je voulais quand même amener cette nuance.
Olivier Sanchi, peut-être d'abord, processus de concentration, comment... Ah d'accord, il y a encore une question dans la salle, alors.
Question une question.
Dans la salle, bien sûr, faites.
Journaux. On a cité le chiffre de 2,1 milliards d'insuffisance de couverture. En fait, ce chiffre, il dépend de deux paramètres. Un, c'est les engagements futurs estimés, et puis le deuxième, c'est le rendement estimé des capitaux. Je n'ai pas trouvé sur le site hein, le taux que vous utilisez pour le rendement estimé des capitaux. J'imagine que c'est 4%. Mais en supposant que ce soit moins, hein, par exemple 3%, ce qui est tout à fait possible, l'insuffisance de couverture, ce ne serait pas 2,1 milliards, mais quelque chose comme 2,6 milliards. Et puis, il y a une chose que je ne sais pas, mais peut-être que le directeur de UIT pourra me répondre, c'est si vous imaginez un cortège avec tous les employés de la fonction publique, puis vous mettez devant les chefs de service ou les conseillers d'État, et puis vous descendez dans les fonctions vers les employés avec les plus bas salaires. Ceux qui sont devant, c'est ceux qui vivront le plus longtemps. Ceux qui sont derrière, c'est ceux qui vivront le moins longtemps. Donc ceux qui vivront longtemps, c'est ceux qui ont des grands salaires. Ceux qui vivront moins longtemps, c'est ceux qui ont des petits salaires. Est-ce qu'on tient compte de ça? Ça fait une grande différence, ça je vous dis.
Oui, c'est une. Je donne la réponse. C'est, en effet, il y a deux paramètres dedans. C'est le taux technique qu'on a pour les intérêts. Ce taux technique en Suisse, en moyenne, c'est maintenant à peu près 3,5%. Et en Suisse alémanique, c'est un petit peu plus bas. En Suisse romande, c'est un petit peu plus élevé, mais le trend, c'est correct. Et on peut dire que ça descend encore plus, probablement, et on devrait dire probablement le taux technique correct, ce serait peut-être 2,5%. Mais ça devient très très cher, si on calcule comme ça. Le problème, c'est qu'on devrait être prudent avec ce taux technique, parce que ça signifie une promesse dans le futur qui est garantie. On donne des garanties à une rentier. Dès qu'une rente est fixée, c'est garanti et on ne peut plus jamais enlever ça. Alors, les belles promesses rendent les fous joyeux. Hein. C'est un petit peu délicat. Alors, en principe, on devrait dire que le taux technique devrait être très bas. Et si le développement c'est mieux, si la performance est mieux, après on peut distribuer l'argent qu'on a de plus. Et c'est plus facile de distribuer quelque chose qu'on a de plus que de refinancer après l'argent qu'on a déjà distribué. Hein. C'est ça le mindset. Et peut-être il faut commencer aujourd'hui de changer cette mindset en anglais.
État d'esprit.
Oui, cette mentalité. Qu'on doit dire, et je suis aussi dans cet âge-là, je devrais dire, moi, je dois renoncer à une rente pour que nos jeunes auront aussi encore une rente. Parce qu'au rentier, on ne peut plus voler la rente. Alors, chaque rente qu'on réalise sur une fausse hauteur, ça crée un problème plus tard. Et qui finance ça? C'est les jeunes, après. Et l'employeur. Alors ça, c'est un problème pour l'économie et pour les jeunes, c'est un problème, ils ne consomment plus. Hein. Ça donne un cercle vicieux, etc. Alors il faut devenir simplement raisonnable et diminuer un petit peu ce qu'on veut avoir. Alors ça peut créer avec le temps aussi un conflit de génération. Et ce que vous avez dit sur la longévité, c'est correct. On pourrait faire des distinctions, mais c'est pas réalisé dans le deuxième pilier. Il y a cette solidarité qui est prévue, mais techniquement on pourrait, mais ça crée aussi des problèmes. Hein. C'est administratif, c'est très très compliqué pour administrer après.
Hein. Comment éviter le conflit de génération, Robbie Chop, peut-être une recette?
Une recette peut-être pas, mais c'est vrai que. Il y a la mathématique et ce qu'elle est, donc on ne peut pas la contourner. Ce qui est très important, à mon avis, c'est de prendre des mesures sitôt qu'on a le manco qui arrive. Maintenant, le problème d'avoir des taux qui sont, entre guillemets, enfin, trop bas et qui sont plus bas que ce qui se réalise, c'est qu'après, ce système de répartition, s'il n'est pas bien fixé à l'avance, il part de nouveau dans des discussions politiques, entre guillemets. Hein. Donc, dès qu'il y a des surplus dans les caisses, on essaye de baisser les cotisations, parce que c'est surtout pour des caisses ouvertes comme celle que j'ai présidée, Nest, il y a une concurrence sur les primes. Ça a été fait dans les années 90. On avait des très belles années boursières en 90. Et qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de faire des réserves, on a baissé les primes, surtout des employeurs, parce que c'est eux qui, finalement, qui choisissent les caisses malgré la parité. Et là, je pourrais me mettre d'accord avec M. Herzog, à condition que ces mécanismes de répartition soient très strictement définis à l'avance. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. On est obligé d'être d'accord, et c'est un petit peu la crainte du représentant du personnel de dire oui, on peut accepter une promesse plus basse. Mais alors après, j'aimerais être sûr que quand le gâteau est plus grand, il ne va pas partir dans des mesures commerciales ou au bénéfice d'autres que les bénéficiaires.
C'est très suisse-alémanique, c'est au bas, finalement. Qu'est-ce qu'on en pense du côté roman ?
Peut-être juste, j'aimerais répondre à la question sur notre caisse, hein, au niveau des espérances de rendement donc futures. Et c'est vrai que quand on a mis en place donc la caisse de pension la fonction publique en 2010, même avant, en 2009, hein, puisque les organes de la caisse, donc conseil d'administration, a déjà travaillé depuis le mois de mars 2009, là on partait avec une espérance de rendement à 4,5 compte tenu de l'espérance de chaque classe d'actifs. On partait avec une espérance de rendement à 4,5 et ben, on a bien dû assez récemment se rendre à l'évidence qu'il fallait revoir un peu à la baisse ce taux-là. Donc les mesures de recapitalisation de la caisse ont été étudiées sur la base d'un taux à 4%. Et puis, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'on fait beaucoup d'études, hein, dans les caisses de pension. On fait des projections à 10, 20, 30, 40 ans avec toute une série d'hypothèses sur les effectifs. Est-ce que les effectifs vont rester stables? Est-ce qu'on aura plus de démissions? Est-ce qu'il y aura plus d'invalidité, moins d'invalidité, etc.? Et puis, rien que l'exemple de la sixième révision de l'AI, qui a quand même réduit de manière drastique les nouvelles rentes d'invalidité, ça a un effet aussi pour nos caisses. Et là, ben, nous, chaque année, on étudie en détail nos sources de bénéfices et pertes. Et en tout cas, les deux premières années de prévoyance Neuchâtel, ça a été, on a enregistré un bénéfice sur l'invalidité, par exemple. Donc là, il faut vraiment rester très prudent. Alors, on peut bien dire que, effectivement, nos 2,1 milliards, c'est peut-être pas exactement la réalité. Ça, je peux vous aller dans ce sens-là, parce qu'on a déjà prévu que le taux de couverture se réduirait de 4 points au moment où on passerait, où on tiendrait compte de l'augmentation de la longévité, et puis qu'on tiendrait compte du nouveau taux d'intérêt technique qui va baisser. Donc là, c'est vrai, c'est pas des chiffres exacts, mais il faut faire attention à ça, puis pas non plus alarmer inutilement nos assurés, parce que finalement, c'est que des estimations de ces éléments-là. Si on se compare par exemple à la caisse pension de l'État de Fribourg, ils ont environ 80% de taux de couverture, mais ils calculent leurs engagements à 4,25%. Donc c'est pas du tout les mêmes bases de calcul, mais pourtant on dit la caisse de l'État de Fribourg est mieux capitalisée que notre caisse de pension. Vous avez le même cas à Genève, il y aura des décisions qui vont être prises au mois de septembre, hein, le 12 par le Grand Conseil, hein, sur l'augmentation de l'âge de retraite à 63 ans, etc. Et puis là aussi, il y a eu toute une réflexion qui a dû être faite dans un deuxième temps, sauf erreur, c'est à la commission de gestion des finances du canton, où on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus garder un taux de 4% de taux technique, on devait baisser à 3,5%. Donc tous ces éléments-là font qu'il faut vraiment rester assez humble par rapport aux chiffres qu'on annonce, et puis surtout regarder ce qu'il y a derrière.
Alain Chat, peut-être, ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas entendu. On va déjà... D'accord, déjà une question dans le public.
Oui, j'avais une question à M. Herzog et aux autres intervenants. Monsieur Herzog, vous avez dit, en fait, je résume un petit peu de manière sommaire, mais si j'ai du bon personnel, j'assainis la caisse et tout va bien. J'aurais envie de dire, d'abord, en commençant par l'anecdote, que malgré d'excellents conseillers, à la marge, heureusement, mais lorsque la faillite Madoff s'est avérée, les caisses de pension du pays, un certain nombre en tout cas, ont été touchées par cette faillite. Les meilleurs conseillers du monde n'avaient pas vu que M. Madoff était un escroc. Ça, c'est un premier exemple. Heureusement, ça n'a pas trop touché. Mais par contre, vous pouvez avoir les meilleurs conseillers que vous voulez, les meilleurs... Ça ne va pas faire remonter la bourse comme elle était il y a 10 ans par un coup de magie, ni faire en sorte que les obligations rapportent les pourcentages que vous souhaiteriez que ça rapporte. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que vous avez dit gouvernance, puis vous êtes venu au personnel. Mais je crois qu'en effet, le personnel ne suffit pas, personnel de qualité, pour régler les problèmes importants de gouvernance qu'il y a encore dans les caisses. Monsieur Alain Chat a évoqué la question d'indépendance par rapport à l'employeur. Là, c'est un élément très important parce que l'intérêt de l'employeur ou des employeurs, du point de vue économique, et l'intérêt des caisses ne sont pas les mêmes. Et il faudrait vraiment trouver les moyens de gérer ces caisses pour qu'elles soient véritablement indépendantes et se gèrent dans cet intérêt-là. D'ailleurs, on a aussi vu quelquefois des dérives dans l'intérêt, entre guillemets, mal compris, mais des employés qui préféraient investir pour essayer de sauver une partie, une ou l'autre entreprise de leur région, alors que ça l'a coûté à la caisse. Donc là, il y a vraiment des problèmes de gouvernance importants et je souhaiterais un peu entendre plus que juste l'exemple de l'entreprise qui a beaucoup emprunté à sa propre caisse.
Donc la question, c'est comment garantir l'indépendance, finalement ?
Oui, c'est une question de caractère. Je peux vous dire que ce n'est pas facile comme directeur, certainement M. Sanchi peut aussi confirmer ça. Si vous insistez comme directeur sur l'autonomie de la caisse de pension, vous devrez lutter. Hein. Vous devez lutter. Pour ça, ce n'est pas donné comme ça. Et c'est clair, c'est non plus donné à tout le monde de lutter ça. Il faut aussi accepter qu'on devient une persona non grata, hein, et que vous perdez votre place. Alors c'est justement aussi la discussion de l'indépendance. Et par exemple, les caisses publiques, hein, la loi est claire. Ça doit être légalement, ça doit être indépendant. Autonome, c'est absolument clair. Après, sur le papier, vous avez ça, vous organisez, vous avez les règlements, etc., les lois cantonaux, etc., c'est tout en ordre. Mais juste dans la tête, c'est l'indépendance, c'est réalisé, ça dure à peu près 10 ans. Vous avez changé la mentalité. Et c'est une lutte de chaque jour pour ça. Et il y a une raison pourquoi je travaille aujourd'hui à Neuchâtel et je paye les impôts à Neuchâtel aussi. Parce qu'on ne peut pas toujours lutter. C'est un jour, vous avez assez. Lutter, après il y a d'autres qui prennent la relève pour ça. Mais ça vaut la peine, c'est un travail très très intéressant de faire ça. Vous avez raison, ce n'est pas seulement avec le personnel. Naturellement, on est placé dans le marché. On ne peut pas finalement battre le marché parce que si on pouvait faire ça, on ne travaillerait probablement pas pour une caisse de pension. On serait indépendant, on serait déjà milliardaire. Hein. Alors, il faut être réaliste et c'est peut-être là où on joint la compétence des collaborateurs. Hein. Il ne faut pas avoir des aventuriers. Hein. J'ai aussi rencontré dans ma carrière professionnelle, j'avais une fois eu un responsable pour l'asset management, hein, pour le placement d'argent. Et je n'étais pas encore très expérimenté dans ce domaine-là. Et j'ai cru, on m'a dit, c'est un expert fantastique, etc. Mais après une année, j'ai remarqué que c'est un gambler. Dans une caisse de pension. Alors, je peux vous dire, ça crée des soucis. Hein? Ça crée des soucis quand vous avez un personnel qui est mal placé là-dedans. Et après, j'ai dû le sortir et trouver quelqu'un d'autre pour gérer ça. C'est quand même beaucoup d'argent. Hein? C'est vraiment beaucoup d'argent dans les caisses de pension. Même si c'est une petite, c'est vite des millions. Et dans les grandes caisses de pension, c'est des milliards. Hein. C'est, par exemple, la caisse de pension de la Confédération, il y a plus de 30 milliards. Alors, il faut imaginer que si on bouge ça, il faut vraiment travailler professionnellement. Et il faut aussi avoir... il faut être assez fort vis-à-vis des banques. Hein. On peut aussi exiger, par exemple, je peux dire, il y a 10 ans, les banques ont pas mal gagné avec les caisses de pension. Aujourd'hui, c'est autrement. Alors, on est beaucoup plus exigeant dans ce domaine-là. Mais finalement, on ne peut pas faire plus que le marché nous donne. Hein, et ça, il faut être réaliste.
Vous parlez beaucoup de la faillite de l'individu, peut-être aussi devrait-on parler de la faillite du système. Enfin, je ne sais pas, je laisse un peu cette question en suspens, mais à vous la parole.
Je voudrais juste intervenir sur deux petits points qui ont été évoqués. Le premier point, c'est sur la gouvernance. Pour bien comprendre les choses, je pense qu'il faut comprendre qu'on a des dirigeants professionnels dans les caisses, et puis il y a des pressions qui s'exercent sur ces dirigeants professionnels, que ce soit des dirigeants de caisses publiques ou privées, ça ne change rien. Il y a toujours des pressions qui s'exercent, et soit vous répondez à ces pressions en disant « je suis maître chez moi, je fais ce que je veux », effectivement, rien ne dit que vous serez là jusqu'à la fin de votre carrière avec ce job-là, ou soit vous dites « eh ben, effectivement, je vais écouter un peu la pression et accepter cette pression-là et répondre à cette pression, ça veut dire qu'on va perdre quelque chose au passage, et c'est toujours vrai ». Ça s'est passé dans les entreprises, et je voudrais faire un parallèle par rapport à ce qui s'est passé dans les grandes sociétés cotées en bourse à travers le monde depuis plus de 10 ans aujourd'hui. On a mis en place ce qu'on appelle des codes de gouvernance. La loi SOX aux États-Unis, c'est une loi importante après des scandales financiers qui sont passés il y a 10 ans. En 2002, une loi très importante aux États-Unis a imposé des choses aux grandes entreprises américaines. Aujourd'hui, ça va mieux. La loi n'est pas parfaite, loin de loi, cette loi-là, mais il y a des choses qui vont mieux. Quand vous voulez être administrateur d'une grande société cotée en bourse aux États-Unis, eh bien, il ne faut pas que vous soyez membre de la famille des dirigeants, il ne faut pas que vous ayez travaillé à l'entreprise, il ne faut pas que vous soyez en relation d'affaires, que vous fassiez du business avec cette entreprise, il y a des critères très précis. Et puis quand vous voulez devenir membre d'un comité d'audit, il faut que vous ayez une expérience en finance, en comptabilité par exemple. Donc on exige des choses très précises. Moi, ce que je regrette personnellement, c'est qu'en matière de gouvernance, on n'exige pas tout ça des caisses de pension avec des sommes en jeu qui sont considérables. Je ne vois pas pourquoi on ne réglemente pas sur certains aspects plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'évoque même pas ces problèmes-là. Et pourquoi on ne les évoque pas ? Parce que dans les caisses publiques, ce sont ceux qui font les lois qui mettent les pressions sur les dirigeants. Donc ils n'ont pas intérêt à ce qu'on réglemente trop. Donc là, je suis très critique par rapport à ça. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point concerne ce qui se passe en ce moment en Europe, surtout. En Europe, comme vous le savez, c'est la crise de l'euro, une crise financière terrible. Mais pour les gérants de fonds, il y a une opportunité extraordinaire derrière. Parce que quand le gouvernement grec, quand le gouvernement espagnol se finance à 7%, c'est bien au-delà des 4% dont parlait mon collègue et ami Claude Jean-Renaud tout à l'heure. 4% aujourd'hui, c'est des taux, on est au-dessus des réalités, tout le monde le sait. Je veux dire, ce n'est pas les vrais rendements actuels, 4%. On est bien au-delà de ce qu'on appelle les taux techniques. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez 100 dans votre caisse, ça ne vaudra pas 104 dans un rang, ça vaudra moins que 104. On ne gagnera pas 4% dans l'année, on gagnera moins que ça. Sauf si vous allez acheter des obligations du gouvernement grec et vous gagnez 7%. Et là, c'est sûr, à condition que le gouvernement rembourse. Et ce que disait monsieur tout à l'heure, et celle à les gamblers dont il parlait, effectivement, c'est un vrai risque aujourd'hui dans les caisses. Il faut être très prudent. Il ne faut surtout pas une caisse qui afficherait 7%, 8% de rendement aujourd'hui. Moi, si je le pouvais, je retirerais toutes mes billes de cette caisse-là. Parce que ça veut dire qu'on allait chercher du risque, parce que pour avoir de la rentabilité, pour avoir des rendements plus élevés de 5, 6, 7%, c'est-à-dire qu'on est obligé de prendre beaucoup plus de risques. Et prendre plus de risques, ça veut dire que ça peut porter ses fruits, on peut effectivement gagner 7% plus dans 5, 10 ans, on peut tout perdre si le gouvernement grec et espagnol ne rembourse pas. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu important dans les caisses de mon point de vue, c'est d'aller chercher du rendement, c'est d'aller acheter des choses pourries, de mon point de vue, en tout cas on pourrait discuter entre experts, mais des choses pas en très bon état pour gagner plus d'argent, mais on pourrait perdre encore beaucoup plus que ce qu'on perd aujourd'hui. Voilà les deux précisions que je voulais apporter à vos questions.
Si vous permettez aux praticiens non experts, non spécialistes de répondre, en tout cas à l'origine, il y a un paradoxe dans la LPP. À la fois c'est vrai qu'on a au conseil des représentants du personnel et des représentants des employeurs à part égale, qui ne sont pas forcément des spécialistes, ils sont encadrés. Alors, est-ce qu'on pourrait exiger plus de profils ? Mais enfin, il faut quand même qu'ils représentent les bénéficiaires, finalement, et puis les personnes ceux qui ont le risque de la caisse de pension, qui sont les employeurs. Et puis, d'un autre côté, on a des prescriptions de l'Office fédéral des assurances sociales, enfin des ordonnances, qui sont relativement contraignantes, même si elles partent du principe comply or explain, qui veut dire suivez-les ou expliquez pourquoi vous ne les suivez pas. Mais on a un grand conservatisme dans ce monde-là. On vient d'entendre, on n'aime pas les aventuriers et c'est bien qu'on ne les aime pas. Mais tout le monde veut acheter, par exemple, des obligations super sûres. Et j'ai rencontré très peu de cas où on accepte de dire, bon, bien sûr, on ne va pas mettre le 100% des fonds de la caisse dans des obligations espagnoles, mais on se permet d'en prendre dans le portefeuille quelques pourcents au moins. La plupart des caisses veulent que du triple ou du double A et rien d'autre, donc ils se privent quelque part d'un mix. Et ça, je l'ai beaucoup constaté dans les 12 ans pendant lesquels j'ai fonctionné, parmi mes collègues, parmi les conseillers qu'on avait, et je trouve un petit peu dommage que il y a à la fois une obsession du risque et la gestion du risque, ça ne veut pas forcément dire de jamais en prendre du tout, de mon point de vue. Mais là, on a tout le monde aime aller sur la voie sûre, et même l'Office fédéral d'assurance sociale et son directeur sortant et rentrant, à mon avis, nous incite trop à suivre les rails que tout le monde suit, ce qui nous met dans une sorte de médiocrité au niveau des placements. En tout cas, c'est mon point de vue, mais on peut en discuter.
En ce qui concerne les investissements, est-ce qu'il est exact qu'en Suisse, les caisses de pension ne peuvent pas investir plus de 30% dans l'immobilier? L'immobilier étant une valeur plus sûre que les actions, est-ce que c'est vrai?
On parle beaucoup des restrictions, finalement. Mais moi, je dis, dans le deuxième pilier, pour le placement d'argent, il n'y a pas de restrictions. Parce que si vous pouvez expliquer que c'est raisonnable ce que vous avez prévu, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vous devrez expliquer au moment où vous prenez la décision que c'était raisonnable. Et ça, c'est « prudent man rule ». Finalement, alors ces restrictions qui sont dans l'ordonnance, ce sont seulement des suggestions, finalement. Alors l'organe paritaire est libre de choisir, on appelle ça une asset allocation, alors c'est tous les types de placements qu'on a, actions, obligations, immeubles, etc. Ils sont assez libres. Alors les immeubles, c'est un placement excellent. Il y a 10-15 ans, ce n'était pas la mode. Tout le monde sortait des immeubles. Ils ne voulaient plus avoir des immeubles, tout le monde voulait avoir des actions, il y a eu dot-com, etc. Alors maintenant, on est guéri de ça. Et maintenant, tout le monde veut avoir des immeubles, mais le prix des immeubles aujourd'hui, c'est inouï. Hein. C'est extrêmement cher d'acheter des immeubles. On peut peut-être encore les construire soi-même. Et si tous les caisses de pension veulent avoir maintenant 30% d'immeubles dans le portefeuille, c'est bien pour le bilan, ça donne de stabilité dans le bilan. Mais le marché est trop petit en Suisse pour toute cette demande. Alors s'il y a une grande demande, alors les prix montent. Alors ça, c'est un problème. Je dirais la crise en Suisse pour les caisses de pension, c'est plutôt ils ont beaucoup d'argent et ils ne savent plus quoi faire avec. Ils ne savent plus où placer parce que les actions, c'est délicat. C'est une grande volatilité. Les obligations, les taux sont tout bas. Alors, les taux peuvent aller plus bas encore. Alors, un jour, ils vont monter. Et là, quand ils montent, on va faire beaucoup de pertes là-dessus. De nouveau. Et les immeubles sont tellement chers qu'on ne peut plus les acheter. Ce n'est plus tellement raisonnable. Alors, qu'est-ce qui reste? Les hedge funds. Non, merci. Private equity, ouais, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment convaincant. Commodities, alors c'est dans l'huile, et l'énergie ou par exemple la nourriture, etc., c'est aussi délicat. Alors il n'y a plus tellement, au moment dans la situation dans l'économie mondiale, on a une grande peine de trouver où on peut placer l'argent d'une façon raisonnable sans prendre trop de risques. Pas prendre de risques, c'est non plus bien, c'est, on ne gère pas bien parce que là c'est sûr, si on ne prend pas de risques, si on prend tout cash, alors c'est sûr qu'on fait faillite. Alors, on ne peut pas prendre une stratégie comme ça. Alors, c'est vraiment le risk management qui est important et c'est qui rend le travail très, très délicat. Je dirais, si on a deux côtés du bilan, on a les liabilities, si on a discuté de longévité, des choses comme ça, de l'invalidité, etc. et du placement d'argent. Alors, je dis 80% des risques, c'est sur le côté du asset management. Pour placement d'argent, à peu près 20% des risques, sont dans l'autre côté. C'est lié avec le taux technique, hein, les promesses à longue vue. Alors, on revient de nouveau sur le taux technique. Si on regarde la performance des derniers 10 ans, c'est assez maigre. Alors, on peut être déjà fier si on a une performance positive moyennement dans les derniers 10 ans. Si on a 2%, on était excellent dans ce domaine-là.
Alors, on poursuivra peut-être tout à l'heure la discussion sur cette voie-là, mais on parlait tout à l'heure de politique de risque. Et là, vous vouliez intervenir, Olivier Sanchi.
Oui, alors c'est peut-être juste pour rebondir ce que vous avez dit en matière d'immeubles. Donc, c'est vrai que l'OPP2, donc l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle, fixe des limites au-delà desquelles on ne devrait pas aller. Mais on peut déroger à ces limites, et notamment sur les immeubles. Ben, notre caisse de pension, actuellement, on a plus que 30% d'immeubles. Dans notre bilan, et puis bon, on l'explique, et l'autorité de surveillance est tout à fait, comprend tout à fait qu'on ait actuellement ce pourcentage d'immeubles. Ce qui est juste intéressant, c'est que c'est fin 2008 qu'il y a eu le changement au niveau de cette ordonnance, où avant on autorisait 50%, et on a baissé juste après la crise des subprimes à 30%. Donc ça, c'était juste pour l'anecdote, mais dans tous les cas, on peut aller au-delà, comme l'a dit Monsieur Herzog. Donc là, c'est clair que c'est autorisé. Maintenant, au niveau de notre caisse de pension, alors c'est clair que l'année passée, on a fait vraiment une performance qui est pas du tout en ligne avec les espérances à long terme, hein, les espérances de rendement à long terme, puisque c'était un rendement largement négatif. Mais notre caisse de pension a une, ce qu'on, nous on l'appelle une stratégie de placement ambitieuse, c'est-à-dire qu'on a 35% d'actions suisses et étrangères. Donc c'est vrai que là on essaye effectivement de prendre un peu plus de risques. Actuellement, bien sûr qu'on n'est pas à ce niveau-là, hein, donc on est dans un régime de préservation du capital, donc on a pas mal de liquidités, mais on est quand même investi à peu près à 30% en action. Alors c'est vrai que ces derniers mois, notamment le mois de juillet, a été formidable pour les actions. C'est clair qu'il faut voir ça à très long terme et puis pas se figer sur un ou deux mois. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est notre caisse fait aussi, justement, va aussi dans... a prévu 2% de sa fortune dans justement de l'aide aux nouvelles entreprises. Et on essaye de trouver une solution actuellement pour que ça soit, qu'on ait des risques trop importants. On n'investit pas directement dans des sociétés en direct, mais on essaye de regarder au travers de spécialistes si on peut trouver à répartir un peu les risques. Mais c'est vrai que notre stratégie de placement qui figure aussi sur notre site est plus ambitieuse que d'autres. Je vous parlais avant, notamment la caisse bernoise a, elle, environ, je crois, 33 ou 35% d'obligations, alors que nous, on en a moins de 20%. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a à ce stade des questions dans le public ? Est-ce que, alors on parlait du deuxième pilier, c'est un bon système, on nous disait autour de la table, finalement la situation en Suisse, elle n'est pas si mal si on compare avec l'Europe, mais est-ce que vous n'avez peut-être pas peur pour le deuxième pilier ? Est-ce qu'il n'y a pas des questions dans ce sens-là, dans le public ? Monsieur, au fond.
Oui, je suis étonné que... les pouvoirs publics, c'est-à-dire les institutions, n'aient pas un contrôle plus sévère envers nos caisses de pension. Si je vous ai bien compris, ça veut dire qu'elles peuvent à peu près faire ce qu'elles veulent. Elles peuvent utiliser l'argent pour faire des investissements pour leur propre entreprise. Elles peuvent investir l'argent plus ou moins comme elles veulent. Moi, je pensais, par exemple, qu'au niveau des actions, c'était très limité. Je ne sais pas, peut-être 20 à 30% de part du capital qui pouvait être placé seulement en actions. Est-ce que vous pouvez me répondre à ces inquiétudes ?
Robichaud.
Si vous permettez, je vais Je vais tenter de vous amener des éléments de réponse. Alors, moi, je vous rassure, les caisses de pension sont très surveillées. Je peux vous dire, on vous a dit tout à l'heure, il y a une ordonnance d'investissement avec des limites que je n'ai pas en tête par cœur, je suis désolé. Si on déroge, il faut expliquer, mais il faut bien expliquer, parce que quand l'organe de surveillance n'est pas tout à fait convaincu, puis qu'il vous demande des rapports, et puis de faire vérifier par un expert tiers, ça devient un très fastidieux, cher, et puis vous n'avez toujours pas, disons, vous ne pouvez pas dire à vous assurer, c'est bon, c'est approuvé. Et la confiance, c'est quand même primordial dans ce monde. Donc l'organe de surveillance a un soft power, un pouvoir doux, mais extrêmement présent. Maintenant, c'est tout aussi vrai qu'il y a une liberté sur le choix des titres, sur le choix des stratégies. On doit démontrer que la stratégie est valable. Elle doit être vérifiée par un expert externe et il n'y a pas beaucoup de cabinets d'experts en Suisse. Donc, on a quand même une unité de doctrine qui est assez présente. Mais contrairement peut-être à ce que vous avez, ce que j'ai compris de votre intervention, je dirais heureusement qu'on nous dit pas tout à fait quel titre on a le droit de prendre ou pas prendre, parce que je répondais tout à l'heure. À titre personnel, je regrette un peu de voir dans beaucoup de caisses, de prospectus, nous ne prenons que du triple et du double A, alors qu'à mon avis, il y a un risque bien balancé permet d'aller prendre des opportunités en prenant des risques très limités là où elles sont. Et ce serait dommage qu'on nous dise vous avez le droit d'investir que dans les 20 plus grandes sociétés boursières suisses et rien d'autre, parce que c'est peut-être dans les plus petites sociétés, sans aller chercher des sociétés exotiques, qu'on peut encore trouver des sociétés qui génèrent de la valeur au niveau des actions, par exemple. Donc, de ce point de vue-là, je plaide quand même pour une liberté raisonnable qui est laissée aux institutions, mais évidemment, chaque institution doit à tout moment être en mesure de démontrer qu'elle sait ce qu'elle fait puis qu'elle contrôle ses risques. Les situations qui ont été dénoncées, dénoncées, on peut dire précédemment, où des caisses de pension d'entreprise continuent à investir dans l'entreprise qui est la leur, proviennent toujours en particulier, excusez-moi, pas en particulier, souvent de ces historiques du fait que les caisses de pension ont existé avant la loi et puis qu'on n'a pas voulu chambouler un marché en interdisant tout du jour au lendemain. Mais c'est vrai que je ne sais pas si une telle situation est vraiment autorisée. Là, je me tourne un peu vers M. Herzog, qui est plus spécialiste que moi, d'investir massivement chez l'employeur, c'est plus tellement. C'est de moins en moins toléré, en tout cas, si ça l'a été.
C'est 5%, pas plus.
Et puis pour les actions, c'est actions suisses et étrangères, c'est un maximum de 50% de la fortune qui peut être placée dans ces véhicules. Mais à part ça, on est vraiment extrêmement contrôlé. Notamment, on doit aussi, par exemple, si un employeur ne verse pas ses cotisations, ben, au bout de 3 mois, on doit l'annoncer à l'autorité de surveillance. Donc il y a vraiment un contrôle qui est fait. Et ces dernières années, on a vraiment vu un nombre important de nouvelles règles. On parle beaucoup de, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais de la réforme structurelle des caisses de pension. Et là, on a aussi installé un système de surveillance avec les autorités de surveillance régionales, avec une haute autorité de surveillance qui vient de commencer ses travaux en début d'année. Et franchement, on est suivi. Et vous pouvez regarder le rapport de notre caisse de pension, les exigences qui sont conduites à des rapports qui ne font pas 3 pages. Hein, donc, c'est vraiment, il y a plein d'aspects qu'on doit contrôler. Je ne vais pas vous donner tous les détails aujourd'hui, mais c'est vrai que il ne faut pas que vous ayez le sentiment que les caisses pensions font ce qu'elles veulent. Elles ont une marge de manœuvre pour fixer leur stratégie de placement, mais elles sont quand même bien contrôlées.
Petite réaction à ma droite.
Votre question rejoint un peu la question de monsieur tout à l'heure pour moi. Je le vois sous un aspect très particulier. Je pense que ce que vous proposez serait très risqué. Très très dangereux pour les caisses, pour la rentabilité des caisses, et je vous explique pourquoi. Si les autorités disaient qu'il faut investir 30% dans l'immobilier que vous jugez rentable, qu'est-ce qui se passerait? Vous créez une bulle, ça serait terrible les effets, parce que imaginez que des milliards nous arrivent sur l'immobilier, votre marché de l'immobilier est le même aujourd'hui. votre offre d'immobilier, comme on dit, est la même. Et vous avez une demande d'un coup de dire on veut acheter de l'immobilier, acheter de l'immobilier, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont exploser sur le marché. Et comme les prix, vous allez payer de plus en plus cher, la rentabilité va baisser pour les fonds. Donc il y aurait des effets extrêmement pervers à une régulation de ce type-là, si on disait 30%, 40% dans l'immobilier. Donc moi, je vois des effets pervers à ça. Le fait que chacun puisse faire un petit peu ce qu'il veut, c'est-à-dire que certains vont plutôt aller sur les actions, d'autres sur l'immobilier, d'autres sur l'obligation. Donc ça va diversifier un peu. On n'aura pas de bulle sur certains marchés, que ce soit le marché des actions, le marché, etc. Pour finir sur ça, pour l'immobilier toujours, que je trouve intéressant. Alors, moi, j'ai des études empiriques en tête, si vous voulez, faites à travers le monde. L'immobilier rapporte moins à long terme que les actions et que les obligations. Moi, c'est les chiffres que j'ai. Non, je pense que c'est un problème de timing, monsieur. La crise espagnole, aujourd'hui, c'est une crise de l'immobilier. C'est autre chose. Si vous parlez aux caisses bancaires régionales espagnoles, c'est pas autre chose. Je veux dire, eux, ils vont vous dire que le problème, il est là. C'est un problème immobilier. Si vous regardez la crise financière mondiale aujourd'hui, l'origine, il y a en 2007, la crise financière mondiale, elle vient d'où? C'est une crise immobilière aux États-Unis qui s'est répercutée dans le système bancaire international, qui s'est répercutée ensuite dans le système boursier international. Mais c'est une crise immobilière au début. Le problème de l'immobilier, faites attention, c'est vraiment un problème de timing. C'est quand est-ce que j'interviens sur ce marché-là? Quand j'interviens, quand les prix sont bas, comme les marchés actions aujourd'hui, les marchés actions sont tellement bas, on se dit qu'est-ce que je peux perdre? Je peux rien perdre, je veux dire, au pire, bon, je perds un petit peu, mais ça peut que monter. Je veux dire, c'est bien le problème du marché action. Tout le monde va y retourner parce que les prix sont très bas. Je veux dire, en 2001, avant le crack Internet, je veux dire, ceux qui étaient sur le marché action, le problème du timing, c'était très mauvais. Il ne fallait pas acheter à ce moment-là, je veux dire, avec les indices qu'on avait. Donc, sur tous les marchés, et surtout sur l'immobilier, monsieur, je vous assure que les études nous montrent, selon le moment où vous allez rentrer sur ce marché-là, et donc une réglementation de ce type-là serait très dangereuse, ça pourrait avoir des effets extrêmement désastreux, de mon point de vue, en tout cas.
Oui, j'aimerais profiter de rajouter un élément qui est un vilain mot en anglais, qui s'appelle le asset liability. Ça dépend finalement de quelle caisse vous avez, de quelle structure d'âge vous avez dans votre caisse. Parce que si vous avez une caisse relativement nouvelle, on va dire, avec des gens jeunes et très peu de retraités, vous pouvez évidemment vous capitaliser. Donc vous pouvez prendre des positions qui vont avoir du rendement un petit peu plus aléatoire, mais en moyenne à long terme meilleur. Tandis que si vous avez des caisses avec beaucoup de rentiers où vous devez régulièrement sortir beaucoup de rentes, alors là, peut-être, vous aurez intérêt à avoir un immeuble qui va vous rapporter les loyers de manière régulière et finalement, sa valeur vous intéresse un peu moins parce que vous n'avez pas le vendre. Mais après, pour aller plus loin, si vous arrivez dans une caisse en fin de vie, par exemple, des caisses de rentiers parce que des entreprises qui ont disparu, s'il vous reste 5 ou 6 immeubles que vous devez vendre en 6 mois parce que la caisse est finie, ce serait peut-être très mauvais parce que vous n'arriverez pas à les vendre à des bonnes conditions. Donc, le timing ou le rapport entre vos investissements et la population qui est assurée joue aussi un rôle important qui plaide pour vraiment laisser une liberté raisonnée aux caisses, mais à chaque caisse d'adapter ses investissements à sa réalité.
Alors maintenant, s'il n'y a peut-être plus de questions, peut-être encore une... Ah oui, il y en a encore quelques-unes. Alors...
Alors, vous avez à peu près 1 milliard d'actions. Donc, j'imagine la totalité sous forme de mandats de gestion, peut-être en 10 et 15 mandats de gestion. Vous faites des mesures de performance. Il y a des meilleurs, il y a des moins bons, et puis il y en a peut-être certains qui restent dans le bas plusieurs années. Est-ce que vous êtes prêt à les éliminer, à leur retirer le mandat de gestion? Est-ce que vous l'avez déjà fait, même si c'est dans le canton? Est-ce que vous avez la liberté de faire... Est-ce que ça fait partie de votre stratégie, en fait, de surveiller les mandats de gestion et puis de retirer les mandats à ceux qui n'ont pas de bonne performance?
Oui, alors je peux vous dire que ça, c'est, malgré la jeune caisse qu'on a, on a déjà retiré un mandat depuis le début de la caisse. Donc on fait une surveillance et il y a déjà un mandat qui a été retiré. Voilà.
Souvent, on voit des comparaisons de caisses de pension dans la presse, il y a les banques cantonales qui font des comparaisons. Alors, quand je regarde, je cherche toujours Neuchâtel, mais je ne vois jamais Neuchâtel. Neuchâtel ne participe pas aux évaluations, donc ça, c'est regrettable. Vous devriez participer systématiquement aux évaluations.
Mais je vous incite alors à aller voir sur le site internet des retraites populaires et vous trouverez notamment une étude très intéressante sur une comparaison des caisses publiques romandes et suisse-allemande dont on fait partie. Et je peux vous dire que ça prend pas mal de temps de répondre à ces questions. Alors déjà, on a l'enquête statistique qu'on reçoit toutes les années de l'OFS. Donc là, on y répond. Donc on est presque obligé. Et après, il y a toutes sortes d'organismes qui nous demandent des renseignements. Bon, c'est surtout sur les placements, la structure des placements. Et en principe, on répond. Envoyez-moi la prochaine fois que vous voyez une étude où on n'y figure pas, et puis on tâchera d'y adhérer.
Peut-être je peux un petit peu aider, hein, Monsieur Sanchez. Écoutez, ces études qui sont publiées dans les journaux, c'est nul. Non, parce que mais il faut aussi dire que c'est extrêmement difficile de faire, hein, de comparer. Ça commence avec le taux technique et tout, les choses, la situation. Et souvent, quand vous regardez le ranking, ça sort quelque chose qui est inouï. On peut dire que ce n'est pas possible que ce sont les gagnants là-dedans. Alors, c'est une matière assez difficile de gérer. Et c'est naturellement très intéressant d'avoir des rankings. Mais c'est vraiment la valeur ajoutée de ces études. Ce n'est pas très, très bien. Et c'est aussi la raison pourquoi certaines caisses ne font pas avec, parce qu'ils disent non, ce n'est pas vraiment professionnel. Si c'est fait par une université, par exemple, je pourrais suggérer que peut-être l'université de Neuchâtel pourrait faire une fois une étude là-dessus. Et là, si c'est fait scientifiquement, il y a une autre valeur. Ça dépend toujours de ce qu'on veut atteindre avec une étude là-dedans. Mais généralement, la qualité n'est pas très, très bonne, ce qu'on voit dans les journaux, malheureusement.
Bonsoir. Ouais, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. En moyenne, les caisses de pension doivent avoir une couverture de 80%, 90%. Les caisses de prévoyance ont la liberté de financer, comme ce qu'on entend à peu près, ce qu'elles veulent. Après, M. Chopi dit que les caisses de pension sont très, 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 très surveillées. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on attend qu'une caisse de pension arrive à un taux inférieur à 60% avant de recapitaliser puis de faire quelque chose?
Oui, je vais peut-être répondre. Je crois que je vais pas sous-estimer la sous-couverture de notre caisse, hein, mais il faut quand même remettre aussi les choses où elles doivent être, dans le sens où aujourd'hui, je ne sais pas, il y a peut-être des retraités dans la salle, mais on paye régulièrement, sans aucun problème, les rentes chaque mois, donc 17 millions par mois, hein, la caisse de pension paye 17 millions de rentes par mois, et elle a aucun souci à court terme de verser ses rentes. Donc il faut vraiment dissocier un problème qui doit être réglé sur le long terme, et je l'ai dit en début de cette séance, les caisses de pension publique depuis des années la particularité de pouvoir être en sous-couverture. Alors c'est clair que ce taux doit augmenter, mais ça ne remet pas du tout en cause sa vie à court terme, et on n'a pas de problème de solvabilité à court terme. Donc c'est clair que oui, il faut évoluer, parce que plus on est bas, plus c'est difficile de remonter, et puis ça, c'est vrai qu'il faut, remonter, mais il ne faut pas non plus diaboliser. Oui, mais on a perdu. Ouais. En quelques années, on a perdu plus de 15 points de taux de couverture. Hein. Entre 2008 et 2010, on a perdu 15 points. Et la commission d'assainissement a commencé ses travaux en 2010. Donc, voilà.
Mais je peux peut-être aussi donner une réponse, prenant un autre exemple, Zurichois. C'est la ville de Zurich. La ville de Zurich, il y a 50 ans, il s'était exactement dans cette situation. Après, le gouvernement de la ville Zurich a dit, c'était d'ailleurs socialiste, on décidait, nous, on veut avoir une couverture complète. Alors, ils ont fait un plan pour 50 ans pour assainir, et ils ont réalisé ce plan, hein, et ils sont juste à la fin maintenant de ces 50 ans, et ils ont un taux de couverture encore aujourd'hui à peu près de 110% comme caisse publique. Alors, on peut résoudre le problème. Il y a des solutions. Mais ce qui est important, il faut avoir une volonté politique. Après, il faut avoir des gens qui savent gérer ce problème. Ça existe. Et après, il faut commencer, step by step. Et on a le temps, ça c'est le bon côté. Alors il faut commencer aussi maintenant, on a 40 ans, on peut résoudre ce problème en 40 ans, mais il faut commencer. Et pas dire, ouais, on peut attendre, on verra peut-être, c'est les marchés qui vont mieux. Mais c'est simplement, ce qui est important, il faut commencer.
On transmettra le message au Conseil d'État Neuchâtelois. Une question dans le public.
J'aurais juste une question là. On a parlé de choses très générales et on est tous concernés d'une manière très personnelle et en fait on aimerait savoir à quelle sauce on sera mangé. Alors finalement, qu'est-ce qui nous attend? Quelles seront les conséquences pour nous, soit retraités ou futurs retraités, dans le canton de Neuchâtel? Quelle solution est-ce que vous allez apporter et comment est-ce qu'on sera touché par les solutions que vous allez apporter pour résoudre le problème de la caisse de pension de Neuchâtel?
Donc là je vous ferai patienter jusqu'à vendredi pour avoir les mesures qui ont été retenues, mais par contre elles sont déjà toutes les mesures, on n'en a pas inventé de nouvelles, toutes les mesures possibles ont déjà été étudiées. Donc il s'agit d'augmenter l'âge de la retraite, augmenter les cotisations, il s'agit de calculer la rente sur des moyennes de salaire, sur des choses comme ça, et là c'est toutes des mesures qui ont été calculées. Et puis on a aussi mis en place ce qu'on a appelé notre boîte à outils, c'est de regarder sur les 20 prochaines années chaque mesure, quelle était l'influence sur le degré de couverture. Donc de combien, par exemple, si on augmente de 1% les cotisations, de combien le degré de couverture va augmenter dans les 20 prochaines années. Et on a mis en place, donc on a modélisé tout ça, et puis c'est ça qui nous a servi, enfin on a utilisé ça pour, dans le cadre de la négociation, pour regarder, pour que l'effort soit partagé entre employeurs, assurés actifs, et puis assuré et pensionné. Mais c'est quelque chose qui va se dérouler, ben comme l'a dit M. Herzog, sur 40 ans, hein, donc cette recapitalisation. Et puis, dans les mesures qu'on va mettre en place, ça se fait en général dans la prévoyance professionnelle, il y a toujours des dispositions transitoires, il y a toujours des régimes transitoires qui permettent de passer d'un à l'autre. On ne va pas faire tout à coup réduire la rente de 50%. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, je peux vous annoncer que les rentes assurées à la caisse de pension pour les assurés actifs, eh bien, elles vont, pour les assurés qui vont prendre leur retraite d'ici 5-10 ans, ben, elles ne seront plus les mêmes qu'un assuré qui les prend aujourd'hui. Donc ça c'est évident. On ne peut pas inventer des mesures qui font pas mal. Donc, vous verrez vendredi, mais c'est des mesures qui sont... où il y a un équilibre qui est trouvé. Et puis ce soir le SSP explique ça à sa base, à la Chaux-de-Fonds, et puis on verra ce qu'il en ressort. Mais c'est clair qu'il y a des efforts à faire pour recapitaliser cette caisse, et là on touche pensionnés, assurés actifs et les employeurs.
Alors je crois qu'on n'aura pas d'autres scoops pour ce soir. Ce que je propose, c'est peut-être poser encore une question. Il y en aura d'autres encore dans le public, on a encore un peu le temps. Moi, je me demandais aussi simplement comment vous voyez peut-être le système suisse dans, je ne sais pas, 100 ans. Quel est votre système idéal dans une centaine d'années? Est-ce qu'on peut idéaliser un petit peu, partir dans les...
C'est le tour de table. Non, mais dans 100 ans, il faut pas oublier une chose, et ça explique certaines des questions qui ont été là aussi. Je veux dire, un système de retraite ou même un système social est le fruit d'une volonté politique. La volonté politique, par exemple, pour reprendre au bon la question qui était posée tout à l'heure sur les caisses de pension publique, a été pendant des années de dire Si l'État ne paye pas les cotisations maintenant, il payera les rentes plus tard, il ne peut de toute façon pas faire faillite, donc on laisse aller. Mais ce n'est pas qu'on a triché, c'était officiel, c'était la doctrine. Ensuite est venu un libéral vaudois, M. Beck, qui en 2006 a posé une motion au Conseil national, lui a dit non, il faut que l'État capitalise aussi ses caisses, parce qu'on voulait assurer les travailleurs contre les faillites des entreprises d'abord. Alors dans 100 ans, est-ce qu'on aura encore un marché capitaliste comme on le connaît aujourd'hui? Je ne sais pas. Je dois constater qu'aujourd'hui, en Suisse, on a un système mixte qui est le transfert par l'AVS des gens qui travaillent, qui payent directement des cotisations, qui payent une partie des rentes. Un système de capitalisation qui pourra souffrir à l'avenir du fait de générer une bulle. Et à un moment donné, l'économie ne peut peut-être pas non plus absorber toute la capitalisation qu'on est en train de lui mettre sur le dos. Est-ce qu'il faudra alléger le deuxième pilier au bénéfice du premier? Il y a des discussions dans ce sens-là. Et puis après, il y a la prévoyance privée qui peut consister à se payer sa maison ou à investir ses propres économies. C'est un système, à mon avis, qui marche bien dans sa philosophie. J'espère, je ne sais pas, mais j'espère que le système en tant que tel se maintiendra dans 100 ans, en faisant attention que l'équilibre entre les trois volets n'est peut-être pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Et puis alors le fait qu'on a appris, enfin qu'on n'a pas appris ce sort, mais qu'on apprend aujourd'hui, c'est que sitôt qu'on, je veux dire, les rentes qu'on va toucher, elles se payent. Donc dès qu'on voit qu'il y a de l'argent qui manque pour les payer, il faut tout de suite compléter, parce que quand on laisse se creuser le trou ensuite est extrêmement long à combler.
On continue le tour de table. C'est très bien comme longueur, on pouvait pas faire trop long.
Oui, alors 100 ans, c'est un petit peu beaucoup. Mais il faut être conscient que tout le monde nous envie pour notre système de trois piliers. Et c'est un petit peu la mentalité suisse, que si tout le monde nous envie pour quelque chose, alors les Suisses sont mécontents avec le système. Et moi, j'aimerais garder ce système. Il faut simplement être raisonnable avec les paramètres. C'est gesunder Menschenverstand, on dit en allemand. Et il faut éviter de devenir des petits Grecs, hein, je dis ça comme ça. Si on pense, bon, si on veut casser le deuxième pilier, par exemple, si on ne fait pas attention avec ce problème de conflit génération qu'on peut créer, alors quelle est l'alternative? L'alternative, c'est qu'on casse le deuxième pilier, qu'on donne l'obligatoire dans le premier pilier et le surobligatoire on donne dans le troisième pilier. Ce qui est dangereux pour ça, le pilier le plus fort qu'on a, c'est quand même le deuxième pilier. Et le risque qu'on a politiquement, c'est encore possible si l'extrême gauche et l'extrême droite se trouvent là-dedans. On a ce système peut-être. Parce que c'est clair, c'est une vieille idée qu'on a cette rente plus forte, qu'on renforce l'AVS. Hein. C'est une vieille idée. Et c'est clair, les banques et les assurances ont aussi un certain intérêt d'avoir un troisième pilier plus fort. Alors là, les intérêts pourraient se toucher et on casse un bon système. Et ce ne serait pas bien pour la Suisse, d'après moi. Il faut être conscient. Et c'est aussi très, très dangereux, par exemple, s'il y a, vous remarquez peut-être aussi dans la presse, souvent, on lutte contre les assurances et on loue les caisses autonomes. Mais les assurances sont très, très importantes pour le deuxième pilier parce que tous les petites entreprises, ils ne peuvent pas avoir une caisse autonome. Ils ne peuvent pas prendre le risque, ils doivent avoir des produits qui sont, où il y a une garantie parce qu'une petite entreprise doit... Le capital de risque doit utiliser pour le business qu'ils ont et pas pour le deuxième pilier. Alors si on chasse dehors les assurances du marché, alors ils sont obligés d'avoir de s'affilier à une caisse autonome. Et après, dès qu'il y a un börsen crash à la bourse, après il y a des faillites des petites entreprises et ça crée après un grand problème dans l'économie en Suisse. Alors les assurances sont très importantes, mais pour donner une garantie il faut avoir du capital en arrière parce qu'ils ont aussi une surveillance, alors un capital de risque, hein. Et la grande discussion, c'est quel intérêt on peut donner sur le capital de risque aux assurances. C'est avec legal quote, etc., etc. Mais soyez prudents, il faut garder les assurances dans le marché aussi. Alors j'espère qu'on peut garder ce système.
Merci. Olivier Sanchi, vous qui êtes un peu, allez, disons, empêtré dans le présent, vous rêvez de quel avenir ?
Alors, on a beaucoup parlé des caisses publiques aujourd'hui, où on a l'impression que le contribuable verse directement la rente des assurés, des fonctionnaires. Mais il ne faut pas oublier que le système de la prévoyance professionnelle, et j'espère bien qu'on pourra continuer de l'avoir, à l'époque, avant d'être dans les caisses de pension publiques, puisque je me suis aussi occupé de la caisse de pension de la Chaux-de-Fonds à l'époque, puis de l'État, puis celle-ci ici, je travaillais dans une entreprise de consulting et justement pour les caisses de pension, et là on allait rencontrer les entreprises et puis on voyait aussi tous les efforts que faisaient les entrepreneurs ou les acteurs économiques pour apporter une prévoyance professionnelle à leurs employés. Et ça, je pense qu'il faudrait qu'on puisse préserver sur le long terme. Après, la question des caisses publiques, je pense qu'on en reparlera encore largement ces prochaines années, mais je pense qu'il faut vraiment cette idée-là où le patron fait quelque chose pour ses employés. Je ne pense pas qu'il faut qu'on l'oublie. Et puis sur le long terme, pour autant que le système capitaliste qu'on a actuellement perdure, j'espère qu'on trouvera encore des caisses de pension, même si dans les 10 dernières années, elles ont fondu quasiment de moitié. Le nombre de caisses de pension a fondu quasiment de moitié. Et je pense que le processus va encore un peu se poursuivre, et notamment dans les caisses publiques.
Alain Chat. Dernier mot.
Moi, je voudrais dire que nous sommes dans une société. Je suis un peu décalé ce que je vais vous dire par rapport à ce qui a été dit avant. Moi, je pense que nous sommes dans une société de nantis. Mon grand-père est décédé il y a 5 ans, il avait un siècle. Quand mon grand-père était enfant, ce sont les enfants qui prenaient en charge leurs parents, leurs grands-parents, les retraites n'existaient pas. On a créé quelque chose de toute pièce qui s'appelle le système de retraite. On a décidé à un moment donné que certains allaient cotiser pour prendre en charge ceux qui ne travaillaient plus. Donc dès le début, on a un transfert intergénérationnel. Le premier transfert intergénérationnel, il s'est fait chez mon grand-père. Mon grand-père a cotisé très peu par rapport à ce qu'il a touché. Il a vécu un siècle, mon grand-père. D'accord ? Donc il a touché beaucoup d'argent, tant mieux pour lui. Mais le premier transfert intergénérationnel, c'est-à-dire d'une génération vers une autre, s'est fait déjà il y a longtemps. Elle n'est pas d'aujourd'hui. Ça s'est aggravé un peu pour plein de raisons, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Une société de nantis, ça veut dire qu'on a des avantages considérables dans nos sociétés. On a bénéficié d'un progrès technologique énorme, on a profité de l'éducation, des systèmes de santé extrêmement développés. Et aujourd'hui, la question qui se pose à nous, c'est sur ces systèmes de santé, sur ces systèmes de retraite, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher ? Moi, je pense qu'il est là, le vrai débat. Et quand monsieur disait, c'est un enjeu politique, je pense que le vrai enjeu, il est là. Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher ? Moi, j'étais très fier, moi, je suis français de nationalité. Moi, j'étais très fier quand les Suisses ont voté en faveur des 4 semaines de congés payés. Ce sont des gens raisonnables. En France, vous avez 5 semaines de congés payés. Si on leur avait demandé de passer à 8 semaines, ils votaient majoritairement, oui, on veut 8 semaines de congés payés. Je pense que c'est ça, une société de nantis. Et je pense qu'il faut accepter à un moment donné de lâcher un peu pour avoir plus tard. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on est tous, moi compris, puisque je cotise aussi, mon salaire en tant qu'universitaire, je paye aussi mes pensions et j'ai un troisième pilier également, etc. La question, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher ? Je pense que c'est ça la question. Quand vous disiez à court terme, qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va perdre ? On va perdre. Je ne vois pas comment c'est possible, même si la bourse remonte, il y a tellement de retard à rattraper, l'allongement de la durée de vie, ça ne va pas s'arranger, on vivra tous plus vieux, on est bien contents, et on aura toujours 3 voitures, et on aura 5 télévisions, et on aura 15 ordinateurs à la maison. On est une société de nantis, donc qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher ? Moi, je pense que le vrai débat aujourd'hui, il est là. Et quels sont les efforts que les hommes politiques sont prêts à faire ? Je pense que toutes les mesures évoquées, ce sont des mesures de court terme. La question, c'est quand on vit beaucoup plus vieux, eh bien, on ne peut pas cotiser le même nombre d'années quand on vit beaucoup plus vieux. Quand on commence à travailler à 25 ans, puisqu'on a des étudiants qui commencent à travailler à 25 ans aujourd'hui, qui vivent jusqu'à 80-85 ans, eh bien, il faut accepter de cotiser plus longtemps ou de gagner moins à un moment donné. le système, l'argent ne tombe pas du ciel. Les hommes politiques ne peuvent pas dépenser à tort et travers. Là, je ne vais pas prendre l'exemple du canton de Neuchâtel en particulier, mais je vais prendre l'exemple de la France, parce que j'aime bien taper dessus sur mes compatriotes un peu de temps en temps. Je veux dire, on ne peut pas tout se payer tout le temps. On ne peut pas se payer tel investissement et telle infrastructure, etc., etc. L'argent ne tombe pas du ciel. Et je pense que les vrais débats, les vrais enjeux pour nos sociétés modernes, ils sont là. C'est qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher dans une société de nantis. Voilà, donc je vous ai dit que ça serait un peu décalé, mais...
Bah c'est vrai qu'après ces quatre interventions, on a presque envie de poursuivre le débat encore sur une heure et demie. Est-ce que vous avez encore des questions? C'est gentiment l'heure. Hein. Je crois que ce n'est pas forcément le cas. Si, encore une question? Oui, alors... voilà, une question.
Je n'aime pas du tout parler de ma petite personne. Alors, on va dire en général, la dame, elle a soulevé la fiction comme quoi plus tard, on aura moins. Si j'ose vous dire, j'ai été trimballée du centre de recherche Suchard à l'école de commerce, à la Dixi, partout, c'était restructuration, etc. Finalement, j'ai placé mon argent sur un très bon conseil que j'avais cru à la CCAP. Et bon, je suis à la retraite depuis très longtemps maintenant. Et au bout de quelques années, je me suis posé la question, pourquoi ça n'augmentait pas? Ça reste toujours la même chose. Si bien je suis déjà à 10 ou 20, je ne sais pas combien de pourcents en moins. Comprenez? Donc la pratique, elle est déjà là maintenant. Et ça, je ne comprends pas. Parce que mes anciens collègues de la Suchard, ils reçoivent toujours encore une petite augmentation, comme à l'AVS, par exemple. Et ça, j'aimerais pouvoir comprendre.
Je pense que le système actuel, si vous voulez, fait que vous avez beaucoup de caisses différentes. Donc, s'il y en a une qui gagne beaucoup d'argent, elle est capable de redistribuer plus. Si une caisse qui est indépendante gagne moins, eh bien, elle sera obligée de freiner un petit peu. Elle pourra redonner moins de retraite chaque mois. Donc, le problème, ça rejoignait tout à l'heure le problème de si chacun peut faire ce qu'il veut un petit peu, eh bien, certains vont avoir beaucoup de rentabilité, des taux de couverture à 130%, d'autres à 60%, au moins momentanément, ça va se redresser. Mais ça, c'est une réalité qu'il faut accepter, malheureusement. Après, vous avez des systèmes, je vais vous dire le vrai risque. Moi, je vois en Suisse. Et ça a été dit tout à l'heure par les intervenants et je ne partage pas leur point de vue. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, la tendance est de regrouper les caisses, d'arriver à des très grandes caisses où on a beaucoup de synergies, des économies d'échelle. Alors, ça veut dire que vous n'aurez qu'une personne pour faire le travail de trois, fondamentalement, les économies d'échelle. Hein, c'est ça, en économie, ça que ça veut dire. Les restructurations d'entreprises, et on aura des restructurations de fonds pension. Ça a déjà commencé, ça a déjà beaucoup diminué, et ça va continuer. Le vrai risque, de mon point de vue, en tant que financier, c'est qu'on va arriver à la même situation que dans le secteur bancaire. On a un phénomène dans le secteur bancaire qui s'appelle le phénomène du « too big to fail ». Ça veut dire « je suis trop gros pour disparaître ». Quand les banques ont été en difficulté ces dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? Les gouvernements ont mis des milliards, ont injecté des milliards dans les banques parce qu'elles étaient trop grosses, on ne pouvait pas les laisser mourir. D'accord? Moi, ce qui me fait peur, c'est que nos systèmes retraite, on fasse la même chose. On crée des très, très grosses caisses et quand on aura des difficultés, l'État ne pourra pas faire autrement que d'intervenir. Mais qu'on se comprenne bien, l'argent, il sortira des mêmes poches. Parce que moi qui travaille, c'est moi qui paye des impôts. Ceux qui travaillent, c'est ceux qui payent des impôts. Donc, qu'on me dise, tu payes plus de cotisations retraite ou comme tu dis, tu payes plus d'impôts, de toute façon, l'argent, il est sorti dans ma poche toujours pour faire ses compensations au sein d'une génération ou entre générations. Donc, le problème est le même. Ce que je dis simplement, moi, la grande inquiétude, c'est faites attention de ne pas trop grossir, de ne pas devenir trop gros, parce que de temps en temps, il vaut mieux qu'il y en ait un qui disparaisse et que les autres prennent en charge que de faire des choses énormes, parce qu'on ne peut pas les laisser disparaître. Et ça, ça coûte une fortune. Et l'expérience des 5 dernières années nous montre que toute la situation, pour être clair, tout le bordel actuel, il vient de là. On n'a pas laissé mourir des banques qui auraient dû disparaître à un moment donné pour faire le ménage, comme le disait Claude. Il faut de la discipline de temps en temps. Moi, enfin, on partage beaucoup de points de vue avec Claude. Il faut faire de la discipline de temps en temps. Ceux qui ne sont pas bons, il faut qu'ils disparaissent. Pour montrer l'exemple, et puis que ceux qui sont bons, ils restent, qu'ils prennent en charge les personnes en difficulté. Il faut aider ceux en difficulté. Moi, j'y crois beaucoup. D'accord ? Mais à un moment donné, la discipline, c'est important. Et le vrai risque aujourd'hui des caisses en Suisse, c'est ça. C'est d'arriver à des très grosses caisses qui pourront faire ce qu'elles veulent. De toute façon, on ne pourra plus laisser. Il faudra toujours intervenir pour les sauver. Et ça, je pense que c'est un risque important quand je vois ce qui s'est passé dans le secteur bancaire.
Merci à tous de vos questions, de votre attention. Vous avez compris que je n'étais pas un spécialiste des questions, donc merci aussi de votre patience. Je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions importantes. Et je crois qu'il faut vraiment applaudir très fort les quatre intervenants. Le prochain café scientifique, ce sera le 3 octobre. Aide au suicide, coup de pouce ou coup de grâce. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.